La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
J'en ai pas fait aujourd'hui.
Et du coup, on est toujours dans la midinale du 14 février, midinale exceptionnelle. On est à Pontanezen et ça ne fait pas 3h30 qu'on est en émission. On a commencé à 14h, on est là jusqu'à 16h, 16h15 parce qu'on est infoutu de respecter l'horaire. Autour du plateau là maintenant pour cette deuxième partie, je suis toujours avec Asgard et on accueille Luc.
Bonjour.
Bonjour. Luc, tu es syndicaliste à la CFDT pour Bibus.
Absolument. Je représente donc 80% des salariés de Bibus sous une étiquette. Donc c'est un très beau collectif qui sous l'étiquette CFDT en fait.
D'accord. On discute avec toi juste après, mais d'abord Asgard, tu voulais nous faire une petite chronologie autour des politiques sécuritaires sur le deal.
Ouais, et je voulais revenir sur les propositions, enfin les propositions. Sur les réponses qui ont été données à ces événements par le préfet, le commissaire de police, la mairie,
le procureur.
Et le procureur général de la République. Donc ce qui a été annoncé suite à ces événements et comme réponse, ça a été donc... Alors il y avait trois propositions, si je me souviens bien. Il y avait le développement de la vidéosurveillance. Il y avait le renforcement des effectifs de police, notamment sous la forme d'une BAC, une BAC de jour. Et il y en avait un troisième, qui était la création dans les transports Bibus d'une brigade de sécurité, si je me souviens bien. Alors toutes ces propositions, elles étaient déjà actées et annoncées sur le site de la mairie en octobre-novembre. Faire passer ça pour une réponse à une situation exceptionnelle qui serait survenue, c'est clairement de la foutaise. Hein. Enfin, c'est des choses qui étaient dans les tuyaux. Et c'est des propositions et des solutions sécuritaires qui ont un an et demi maintenant, qui remontent à un an et demi, qui remontent à toute une campagne sur l'ensauvagement des quartiers, des banlieues qui a été lancée par le ministre de l'Intérieur au moment où il a pris ses nouvelles fonctions. Et c'était des mesures qui avaient été annoncées suite à cette campagne-là, où on parlait suite au bouquin, enfin la récupération du bouquin d'Oberton, La France orange mécanique. Donc il y avait eu ce contexte-là qui avait été lancé par Darmanin, et Macron avait annoncé du coup exactement les mêmes mesures pour... comme objectif de la politique du ministère de l'Intérieur pour lutter contre la question du trafic de drogue. Et c'était ça qui avait été budgété, je crois, à hauteur de 15 millions d'euros pour jusqu'à l'échéance 2022. Quoi. Donc c'est pas des propositions qui sont du tout en réaction avec quelque chose qui aurait émergé comme ça. C'est des trucs qui sont dans les tuyaux depuis très longtemps. Enfin, les politiques sécuritaires et ces réponses-là, elles sont dans les tuyaux depuis bien avant. Mais c'est le redéploiement de ces solutions-là pour traiter ces questions. Et sur le Finistère, ça a quasiment pris la forme d'une doctrine qui a été développée du coup par le commissaire de police de la ville de Brest. Qui est reprise fréquemment, et notamment elle avait été rappelée le 19 dans une interview qui avait été donnée au Télégramme, donc juste avant les événements qui auraient conduit aux attaques de tram, etc. Et cette doctrine-là, elle est formulée par le commissaire sous la forme du harcèlement vertueux. C'est-à-dire il s'agit d'aller harceler tous les petits dealers. C'est-à-dire qu'on ne va pas taper là non plus dans du réseau ou dans du trafic organisé, mais on va aller déstabiliser, c'est ça qu'ils disent, les principaux dealers. Donc les principaux, c'est les petits. C'est-à-dire qu'un réseau de drogue, c'est des choses qui sont documentées, hein, y a des très bons articles là-dessus. Un réseau de drogue, ça commence à rapporter de l'argent à partir du moment où on écoule à peu plus de 10 kilos par... de 10 kilos de cannabis, par exemple, par an. Quoi. En dessous, on est, c'est les smicards de la drogue. Quoi. Enfin, on ne fait pas un smic. Et c'est de la pointe. Enfin, bref. Mais c'est tous ces gens-là qu'on va aller taper. Et c'est l'expression. Pour faire du chiffre. Quoi. Et pour remplir les stats.
Ouais, parce qu'en fait, il y a ça aussi dans les préoccupations du ministère de l'Intérieur, c'est la fabrication du chiffre et évidemment aller taper sur les tout petits dealers, ça va plus vite que de s'en prendre à la vraie racine du mal. On aura beau jeu derrière de dire que, parce qu'en général c'est ce qu'on entend, d'ailleurs pour les personnes qui sont... qui sont concernés là aujourd'hui. On rappelle, il y en a 3 qui sont incarcérés. On entend qu'ils ont des casiers longs comme le bras. La plupart du temps, ces casiers sont constitués d'arrestations en possession de stupéfiants ou de vols. Donc on est bien en train de s'en prendre, comme d'habitude, aux couches populaires. Ces 3 personnes-là donc, sont de l'aveu même de la police, des petits dealers. Il y en a 3 donc incarcérés, on suppose que c'est à la maison d'arrêt de Brest. Cette même maison d'arrêt de Brest qui est surpopulation carcérale à 170%. 170%, vous imaginez à peu près ce que ça fait. Voilà. Il n'est même pas nécessaire de revenir sur les mots du commissaire ou du procureur sur cette notion de harcèlement vertueux. Le harcèlement est puni par la loi. Si on va sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur le site de servicepublic.fr, on a une très bonne définition de ce qu'est le harcèlement et de comment il est puni. Quand des officiers de police commencent à dire qu'on va harceler une population, c'est bien eux qui créent cette zone de non-droit. D'un seul coup, les populations n'ont plus d'autres droits que de se faire harceler. Voilà. Et puis, s'il y avait un truc que tu avais trouvé et qui, moi, je trouvais éclairant, c'est... depuis octobre l'année dernière, le préfet du Finistère parle de la vidéosurveillance à Brest. Ça, c'est assez drôle. Il y a un rapport qui a été écrit sur la vidéosurveillance dans 4 grandes agglomérations grenobloises entre 2017 et 2020 qui conclut que la vidéosurveillance ne sert à rien. Moins de 1% d'élucidation des délits. Et je te laisse la joie de dire qui a écrit ce rapport. On pourrait penser que c'est des universitaires islamo-gauchistes, mais c'est...
C'est le centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale.
Voilà.
Et c'est à ce jour l'étude la plus importante qui a été menée sur l'effectivité de la vidéosurveillance.
On est bien ?
Je crois qu'on est pas mal.
L'idée, c'était juste de démontrer que ces annonces-là, où d'un seul coup, tout va arriver... et la vidéosurveillance et la bague de jour en réponse à une situation exceptionnelle. En fait, la situation exceptionnelle, elle est pensée depuis un an, quoi. Donc,
elle est non seulement pensée depuis un an, mais c'est cette situation exceptionnelle et ces dispositifs-là, c'est-à-dire le harcèlement, les contrôles de la BAC, etc., qui engendrent pour une part les troubles à l'ordre public qu'on peut avoir, quoi. Et c'est un vrai problème. Oui.
À Alors, non, c'était...
J'ai pas compris.
J'essayais de passer la parole. Du coup, si on en a terminé avec cette toute petite chronologie...
Je peux.
Je t'en prie.
Juste, ce que ça m'inspire, là, ce que vous dites, c'est que on voit que dans l'économie parallèle, comme dans le monde du travail, puisque moi, mon cœur de métier, c'est le monde du travail, il y a une hiérarchie et c'est toujours les plus petits qui payent. Et voilà, en tant que syndicaliste, ce que ça m'inspire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle qui vont trimer, alors que effectivement, c'est comme tu disais, il faut en vendre des kilos de cannabis pour. Et donc c'est terrible, quoi, parce que ce soit dans l'économie réelle ou dans l'économie souterraine, ce que j'appelle l'économie souterraine, on retrouve les mêmes mécanismes, en fait.
Ce qu'on pourrait dire vraiment, c'est que les dealers manquent d'un véritable syndicat. Hein, ça, il n'y a pas de doute. Il y a un excellent article qui s'appelle « De l'argent facile » de Claire Duport, qui est sociologue, qui explique excessivement bien, en effet, cette structure excessivement pyramidale et à quel point le monde de la drogue est tout à fait similaire aux rémunérations de l'entreprise, quoi, avec évidemment les risques qui sont conséquents en plus, quoi, et de la part de la police et avec les collègues de travail, quoi. Et cet article est vraiment bien. On a peu de chiffres pour étudier quelle est la réalité économique du deal, mais celui-là, il se fonde pour une part sur des livres de compte qui avaient été récupérés lors d'une des plus grosses opérations de démantèlement de réseau de police à Marseille, qui était un démantèlement de la cité de la Castellane. Et on voit très bien comment c'est excessivement pyramidal et à quel point les dealers ne font pas d'argent.
Du coup... Donc on te représente, hein, tu fais partie du syndicat CFDT, qui donc représente 80% des collègues de Bibus.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et donc c'est vous qui avez subi l'attaque, vous les collègues qui avez subi l'attaque du tram. Suite à ça, il y a eu une décision de retrait. De la place de la part des collègues, ou est-ce que tu... Enfin, je vais peut-être dire des conneries parce que je ne vais pas utiliser les bons mots. Donc, est-ce que tu veux nous raconter ce qui s'est passé pour vous et nous expliquer un peu comment ça s'est joué?
Ça fait 3 heures devant vous. Non, ouais, je vais essayer d'être rapide, mais je suis assez bavard. Donc, je vais essayer d'être assez rapide et assez synthétique, en fait. Donc, le samedi, effectivement, dans la nuit du samedi au dimanche, il y a eu un tram qui a été, nous on dit attaqué. On parle effectivement de guérilla urbaine, même si j'ai bien compris que le terme te gênait tout à l'heure. Mais on a parlé de guérilla urbaine. Et voilà. On a demandé à ce que le tramway s'arrête à Ménespol, c'est-à-dire avant le quartier de Pontanezen, et que des bus de substitution évitent le quartier de Pontanezen pour mettre les salariés en sécurité. On était un peu énervé après la police. On était un peu énervé après la police, puisque le quartier était sous tension depuis le mercredi, et que pour eux, tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Et qu'on n'a pas été du tout informé, en fait. Alors, quand je dis nous, c'est ce que nous dit l'entreprise, mais en tout cas, nous, en tant qu'organisation syndicale et représentants du personnel, du tout, on n'a pas du tout été informé des incidents du mercredi, qui ont amené potentiellement à ce qui s'est passé le samedi. Donc, je pense que ça aurait pu être évité, certainement, et en tout cas, il y aurait pu avoir une désescalade très rapidement pour éviter en fait que le quartier, parce que notre sujet à nous, on est dans le monde du travail, voilà, on protège, notre sujet à nous, c'est de protéger les collègues. Il faut savoir que l'employeur a une obligation de sécurité physique et de sécurité en fait des salariés, hein, de santé, de sécurité. Donc notre sujet, ça a été d'imposer en fait aussi à la direction d'arrêter le tramway à Ménespol. ça a été, on a déposé ce qu'on a appelé un danger grave et imminent, de façon à ce que l'entreprise soit obligée de prendre des dispositions et d'arrêter le... Ce qu'on a reproché en fait à l'entreprise, c'est qu'effectivement, s'il y avait eu des dispositions prises très rapidement dès le mercredi, potentiellement, il y aurait l'arrêt du tram. Le tram serait revenu beaucoup plus rapidement dans Pont-à-Nézène, puisqu'on n'aurait pas eu l'incident qu'il y a eu avec le tram. On a déjà dit, on ne va pas le répéter, mais dû à une dizaine ou une quinzaine de personnes qui, globalement, font chier tout le monde sur Pontin. Et pas que sur Pontin, on pourra en reparler aussi, puisque c'est arrivé dans d'autres quartiers également, par la suite. Donc, toute cette escalade-là aurait pu être complètement désamorcée très tôt. Et c'était ça un petit peu notre colère aussi à un moment donné.
Après, il y a peut-être pas que la police qui a fait que ça s'est escaladé. Je veux dire, quand on a vu tous les articles dans le Télégramme, Ouest France, partout, ils ont quand même participé à mettre de l'huile sur le feu, quoi.
Après.
Après seulement.
Après. Le mercredi, il y a eu quelques éléments. Mais en fait, qu'est-ce qui a foutu le feu aux poudres médiatique ? C'est le fait que le tram ne passait plus à Pont-à-Nézène. Le tram, c'est quoi ? Le tram, c'est la vitrine de Brest Métropole. Et donc, à partir du moment où le tram ne passait plus à Pont-à-Nézène, eh ben, effectivement, la vitrine de Brest Métropole était attaquée. Et donc, effectivement, on parlait d'insécurité, alors que la police... Effectivement, on sait que c'est des sujets qui sont hypersensibles. Vous en avez parlé avec Mehdi tout à l'heure, avec la visite de Marine Le Pen. Moi, je sais que j'ai eu CNews qui a voulu m'appeler. Je l'ai raccroché au nez parce qu'il n'est pas question que je parle, moi... dans ces news, hein, j'aurais dit non, moi je parle pas dans votre télé. Et puis on voyait qu'il y avait une sorte de récupération médiatique et de pour faire le buzz sur le sujet, quoi. Ce qui nous n'était pas notre sujet. Notre sujet, c'était de revenir le plus rapidement possible dans le quartier, en sachant que, et Mehdi l'a très bien dit tout à l'heure, dans le fantasme collectif, les gens souffrent beaucoup plus de ce qu'ils ont vu par la télévision ou par les journaux, que ce qu'ils ont vu effectivement en réel. Ce qui fait aussi le delta entre, en ce qui nous concerne, les gens qui conduisent le tram ou les bus et les habitants de Ponta qui disent « Mais non, mais notre quartier, c'est pas le Bronx. » Sauf que dans le fantasme, effectivement, conduire un tramway ou laisser son mari, sa femme ou son père dans Pont-à-Nézène, avec ce qu'on a vu dans la télévision, qui se passe peut-être à Lyon, qui se passe peut-être à Marseille, c'est toute cette difficulté-là où il fallait prendre de la distance par rapport à l'événement pour pouvoir revenir sereinement dans le quartier de Pont-à-Nézène. C'est hyper compliqué, hein. C'est très complexe. Hein. On marche sur des œufs et on est toujours pris entre deux feux, en fait.
Et les collègues, comment ont vécu l'attaque ou ont vécu d'autres caillassages? Il y en a eu quelques-uns un peu sur quelques bus. Comment ils vivent ça?
Je me suis un peu fâché. Je vais donner des noms. Hein. Je me suis un peu fâché avec le journaliste du Télégramme, Stéphane Jézéquel, qui me téléphone le dimanche matin à 9h sans me demander s'il me dérange et qui me dit « Je voudrais avoir le numéro de téléphone des deux personnes qui étaient sur Pont-à-Nézène et qui se sont fait... qui était donc le conducteur et puis le régulateur qui est venu sur place. » Je dis, il me dit, mais il n'y a pas de victime. Je dis, il y a des victimes, il y a au moins deux victimes. C'est les deux, au premier degré, ce sont les deux personnes qui étaient sur le tram. Et au deuxième degré, c'est l'ensemble des salariés qui, eux, conduisent sur des lignes de nuit et qui se demandent comment ils vont faire ça au deuxième degré, quoi. Et donc, il me dit « Ah non, mais vous faites de la rétention. » Alors, je lui ai dit « Bah écoutez, vous changez d'interlocuteur. » Je vais raccrocher au nez. Je lui ai dit « Vous me trouvez un autre interlocuteur. » Voilà, la relation qu'on a eue à ce moment-là avec Stéphane Jézéquel. Et je balance parce que je trouve ça lamentable.
Et c'est dans quel journal aussi, tout à l'heure, on en avait parlé un peu avant l'émission, qui vous demandait... Si le fait de ne pas venir dans le quartier avec les bus et le tramway était assez punitif pour le quartier.
Oui, alors, bon, c'est encore le Télégramme. On va dire que j'en veux au Télégramme. C'est vrai qu'on a fait une manif dans le Télégramme il y a 4 ans. Bon, c'est une autre histoire, je ne vais pas raconter ma vie. Je lis, j'ai un peu remonté aussi quand même, parce que en termes d'huile sur le feu et de non-considération de ce que vivent les populations de Pontanézen, l'interview de la journaliste était quand même assez balèze. Elle demande à notre directeur, mais très clairement, là, c'est noté comme ça, elle dit, est-ce que vous ne pensez pas que la punition est sévère pour les habitants de Pontanézen? Mais je ne comprenais pas et je ne comprends toujours pas pourquoi on parle de punition pour les habitants de Pontanézen alors qu'on parle de sécurité des salariés, de sécurité psychologique et physique des salariés. Et en fait, en se disant, bah, si effectivement on balance, on s'exprime en disant que c'est une punition, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, eh ben, on ait des gens qui fassent exploser des choses à droite à gauche puisqu'ils sont punis. Moi, quand je suis puni, je ne suis pas content, je tape du pied sur la table. Et en plus, c'est très infantilisant. Donc, l'explication n'était pas donnée par la journaliste comme quoi c'était sans doute que les salariés de Bibus avaient besoin de prendre du recul par rapport à l'événement pour pouvoir retourner dans la zone en étant serein. Parce que, voilà, et non, on présentait ça comme étant une punition pour les gens du quartier. Donc, c'est pour ça, du coup, alors, je rebondis là-dessus. Quand vous m'avez appelé pour me demander si je voulais participer à cette émission, évidemment, puisque ça nous permettait plutôt que d'échanger par Telegram, Ouest France et autres médias avec qui j'ai des bonnes relations en général, hein, mais autres médias interposés, quelque chose de plat, au moins ça permet d'expliquer très clairement aux habitants de Pontanézen pourquoi on a mis ça en place. Et que on est dans le monde du travail, c'est-à-dire que donc on gère le monde du travail et on ne gère pas la politique de quartier. La politique de quartier, c'est d'ordre public, ça appartient à l'État, ça appartient ou au moins à la métropole. Et ce n'est pas notre sujet.
Moi, je voudrais juste revenir sur ce terme de punition. J'ai un peu halluciné quand tu m'as parlé de ça, parce que en fait, il y a deux choses dans ce terme. Il y a le fait que le quartier soit puni, donc on stigmatise tout le quartier, c'est tout le quartier qui doit être puni. Et on met Bibus et ses agents en position, c'est vous les punisseurs, quoi.
Tout à fait, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on ne considère pas, la gêne que ça procure aux habitants, puisqu'on leur dit vous êtes punis, on les infantilise, ce qui est extrêmement gênant. C'est même terrible, enfin, en termes de communication, on ne punit pas une population comme ça. Et effectivement, les punisseurs, c'est en gros, c'est la CFDT Bibus. Mais on appelle ça, c'est le triangle dramatique, en fait. Hein. Il y a une victime, il y a un punisseur, une victime, et un médiateur. On appelle ça, vous connaissez ça, le triangle dramatique. Hein. Ce triangle dramatique, là, et donc, on nous enferme dans un triangle dramatique, et une fois qu'on nous enferme là-dedans, ben, on tourne en rond, et on ne sait plus quoi faire avec. Donc, du coup, bon, on n'est pas couillon non plus, hein, on sait faire, et puis on sait lire entre les lignes.
Hein. Et du coup, à quelles conditions vous avez repris le trajet normal dans
Alors, ça, a été, ça aussi, ça a été assez marrant, parce que... Enfin, marrant, c'est un abus de langage, évidemment. On a dit, nous, on retourne à Pontanézen à condition, et ça, je reviens sur ce qu'a dit Mehdi, c'était très intéressant d'ailleurs, à condition qu'on fasse tourner des voitures de police dans Pontanézen, et on se dit, si les voitures de police n'ont rien, a priori, on peut revenir dans Pontanézen, puisque les voitures de police n'ont rien. Et là, on entend par un biais... Oui, mais on ne va pas revenir dans Pontanézen. Alors, on demandait des voitures de police non banalisées, hein, floquées, quoi, avec des étiquettes de police. Et là, on entend dire, par un biais comme ça, que non, on ne va pas mettre des voitures de police parce que ça serait pris pour de la provocation. Donc, ça me ramène à ce que disait Mehdi tout à l'heure, où, effectivement, le fait d'avoir affaire à la police, c'est tout d'un coup de la provocation. Et je reviens à ce qu'il disait aussi. Où est la police de proximité qui a été enlevée ? Où est le lien social avec la police ? Si la police ne sert que pour la provocation ou ne vient que quand ça merde et n'est pas là au quotidien, effectivement, faut pas s'étonner que quand elle vienne, ça pète. Puisque le lien social avec la police n'existe plus. D'ailleurs, les policiers sont les premiers, enfin ça c'était Sarkozy, mais étaient les premiers à gueuler contre ces commissariats de proximité là, qui avaient été...
Du coup, moi j'ai une question, ça ne va pas être sympa.
Non, mais j'aime bien.
Tu disais tout à l'heure, nous on gère le monde du travail, pas les politiques de quartier,
ouais.
En exigeant qu'il y ait plus de keufs dans les quartiers pour pouvoir revenir travailler. Est-ce que tu n'as pas l'impression justement que vous gérez les politiques de quartier ?
Non, on demande pas à ce qu'il y ait plus de keufs. On demande à ce qu'il y ait une présence policière pendant un moment, de façon à ce que s'il ne se passe rien sur les policiers, nous, on peut revenir dans le quartier. Alors si c'est ça, plus de keufs, oui, on demande à ce qu'il y ait plus de keufs. Mais le sujet, c'était... Bon, je vois bien qu'il y a un parti pris de toute façon.
De toute façon, c'est clair.
Ouais, non, mais c'est bien. C'est ça le débat aussi, en même temps. On est là pour ça. Hein. Il faut surtout qu'on ne soit pas d'accord. C'est ça ce qui fait avancer les choses. La présence policière... Mais Mehdi l'a très bien dit tout à l'heure, en fait. Je trouve qu'il l'a superbement dit. Et qu'est-ce qu'on fait quand on demande à ce qu'il y ait des policiers qui tournent avec des voitures floquées ? C'est un pansement sur une jambe de bois, puisque de toute façon, on est en train de demander quelque chose qui n'aurait jamais dû disparaître, c'est-à-dire le lien social dans un quartier. Le lien social par, là où on est aujourd'hui, là, maison pour tous.
Centre social.
Maison pour tous. Centre social, le centre social, les policiers de proximité, les magasins, la boulangerie, la boucherie, la machin. Tout ça qui a délité le lien social, mais dans tous les quartiers. Mais bon, là, je vais au-delà de mon mandat de délégué syndical. Mais le passage par les réseaux sociaux, qui est complètement délétère et qui fait de chacun, puisque c'est des réseaux sociaux, on est tous des cas sociaux. Du coup.
Et du coup, là, il y a une des réponses apportées par le préfet à la situation d'urgence, qu'est la création d'une brigade dans les transports.
Ouais.
Vous en pensez quoi ?
On avait eu l'info, nous, par Johan Edelec, déjà l'année dernière, sur la brigade des transports. Ils avaient un problème juridique, en fait, parce que la brigade des transports... Je vois que tu rigoles.
Alors,
je vais t'expliquer, je vais dire après. Peut-être qu'il y a d'autres infos, donc c'est intéressant. Ils nous disaient qu'ils avaient un problème juridique parce qu'il fallait que tous les maires des communes de la métropole soient d'accord. Voilà l'info qu'on a factuellement.
C'est bon maintenant.
Pardon ?
C'est bon maintenant.
Ils sont tous d'accord.
C'est bon, ils sont tous d'accord.
Je pense, ouais.
Oui, mais ça va se faire puisque ça se fait déjà dans d'autres métropoles. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire ? Ce que je sais, c'est que l'incivilité a... Alors, toi, tout à l'heure, tu disais que Ou c'est toi d'ailleurs, je ne sais plus.
C'est pareil.
Donc vous avez dit que il y avait pas plus d'agression ou de je ne sais plus quel terme vous avez employé.
Il n'y a pas de hausse de criminalité. Ouais, il y a un léger flottement. Du coup, on a inventé le sentiment d'insécurité.
Ouais, ce que vous avez dit. Nous, après, ce qu'on constate quand même au niveau des transports urbains, mais c'est pas que sur Brest, c'est partout, c'est que le nombre d'incivilités a explosé. On a des chiffres, hein, on voit les courbes, le nombre d'incivilités a augmenté.
Qu'est-ce qu'on met dans l'incivilité ?
Les engueulades, les salariés qui se font invectiver, les portes qui sont ouvertes en dehors des arrêts pour sortir, les engueulades entre clients.
D'accord.
Donc, on sait que le nombre d'incivilités a augmenté plus. Mais c'est la partie d'un tout. Hein. Enfin, je veux dire, après, je sors de mon mandat de délégué syndical quand je dis ça, mais c'est la partie d'un tout. C'est-à-dire que on ne peut pas enlever isoler en fait ce niveau d'incivilité qui augmente avec une gestion de la société telle qu'elle est actuellement avec effectivement un délitement du lien social dans à tous les niveaux, partout, où on impose, on ne propose pas et on impose systématiquement.
Ouais, je verrais quand même plus des animateurs hein, pour gérer ce genre de problème, ces petites incivilités-là, que de foutre des brigades de flics. Quoi.
Ouais, et moi, j'allais te poser une autre question. Dans ton syndicat pour Bibus, c'est quoi votre position sur la gratuité des transports pour toutes et tous ? Ah.
Dans l'idéal, oui. Et si on le met en place, qui paye ?
Oh, ils trouveront ça. Il y a de l'argent.
Pardon ?
Il y a de l'argent.
Oui. C'est-à-dire, dans l'idéal, oui. Alors, pas partir sur. J'ai pas envie de partir sur un gros débat
non, c'était juste politique, pour savoir si...
Mais c'est qui paye ? On voit bien que je sur des choses, les impôts locaux qui sont en train de disparaître, on voit que globalement, qui c'est qui va payer la note ? C'est tout le monde, y compris les plus petits. Donc, le sujet, il est là. Donc, qui paye ?
Non, mais
et à qui on fait payer ça ?
Je suis d'accord avec toi. Après, qui paye les brigades de flics qui viennent dans les transports, tu vois ? Je veux dire, et leur équipement, qui coûte cher. Mmh. C'est juste, est-ce que tu vois, par exemple, ça pourrait pas être une autre forme de réponse ?
On l'a dans certains réseaux. Alors,
parce que les incivilités, j'imagine aussi que dans le nombre d'incivilités qu'il peut y avoir, il y a aussi... toutes les fights qu'on peut avoir avec les contrôleurs.
Tu as raison.
Tous les trucs de distributeurs de tickets qui sont saccagés ou abîmés, enfin ce genre de trucs.
Je vais aller dans ton sens.
Et si jamais il n'y avait plus ça ?
Je vais aller dans ton sens. On a l'exemple des réseaux qui sont partis sur la gratuité
complète. Il y en a un au Havre. C'est pourtant pas.
Non, pas le Havre.
Pas Grenoble.
Je crois que c'est Dieppe. Dunkerque. Merci.
Dunkerque.
Non, pas le Havre. Ouais, Dunkerque et La Roche-sur-Yon.
D'accord.
Il n'y a pas Grenoble aussi ?
Il y en a un autre dans l'Est, dans le l'Est.
Non, je crois.
Vas-y. Et du coup ?
Dunkerque, La Roche-sur-Yon. Et tu as raison. Le niveau d'incivilité, il a chuté, mais au ras des pâquerettes.
Ben voilà, on a une solution.
C'est un constat. Les collègues qui bossent... j'ai de la chance d'être aussi investi au niveau national, mais au niveau des transports urbains. Donc, il y a des données que j'ai comme ça. Et les collègues qui sont sur Dunkerque et La Roche-sur-Yon nous disent, mais c'est incroyable.
Ouais, mais je pense que c'est normal, en fait. Ouais, ça met un autre rapport aux usagers que celui de payer ou pas payer.
Je sais plus...
Moi, je bosse en bibliothèque. Quand tu supprimes les amendes dans les bibliothèques parce que les gens, ils ont des retards de livres, bah, t'as une chance de revoir les gens. Alors que s'ils doivent de la thune, et ils se sentent jugés, méprisés, et du coup on perd et des livres et des lecteurs. Les livres, on s'en fout d'ailleurs.
Et on en fait des contrevenants. Mais je suis assez d'accord sur le principe. Dans l'idéal, je dis oui. Après, moi, je n'ai pas les solutions économiques, mais évidemment, transport gratuit. Pour moi, dans mon esprit, le transport doit être la continuité du trottoir. Je ne sais plus à qui j'ai dit ça ce matin. Je crois que c'est à toi. Pour moi, dans l'esprit, le transport, évidemment, doit être la continuité du trottoir. De fait... Puisque si on veut aller sur le côté écolo aussi, puisque à un moment donné, il faut y penser à cette histoire quand même d'écologie. Et si on amenait un transport qui serait de fait des continuités, on ne paye pas à chaque fois qu'on pose notre pied sur le bitume du trottoir. Donc effectivement, si on utilisait le tram et le bus comme étant la continuité du trottoir de façon assez logique, on serait... puis après... L'écologie, c'est bien mettre l'humain au centre des choses. Hein. Donc, effectivement, on mettrait l'humain et non plus le côté financier au milieu.
Moi, je voulais juste revenir sur l'histoire du triangle, là.
Le triangle dramatique, le triangle de Carpane.
Sur ton triangle. Ouais. Il va de soi que personne ne veut que des salariés aient peur d'aller au boulot. C'est posé. Quoi. Ouais. Mais comment tu veux sortir de ce rapport entre, par exemple, tes collègues et les gens du quartier, si les réponses qui sont portées... Alors, je ne dis pas que c'est personnellement ou je ne dis même pas pour cette affaire-là, quoi, mais sont toujours de l'ordre de la sécurité. C'est-à-dire qu'en posant et en corrélant votre sécurité qui est légitime, hein, sur laquelle je ne veux pas revenir, quoi, parce que pour moi, il n'y a pas débat, il n'y a, pas besoin d'en parler. Quoi. Mais quand les réponses à ce qui se passe, au fait que vous soyez à ce point identifié à l'État et à la police, parce que c'est pour ça que vous êtes pris pour cible, hein, c'est parce que quand on ne peut pas s'en prendre directement au keuf, on va aller vers les institutions, on va aller vers les transports en commun, et ça va se passer. Quoi. Quand les réponses qui sont données derrière, et que pour une part vous approuvez, hein, enfin, peut-être pas dans le fond, mais en tout cas de fait, c'est-à-dire c'est de nouvelles caméras dans le réseau Bibus, parce que cette fois-ci on n'a pas réussi à toper les mecs, parce que l'image n'était pas assez bonne et que ça apporte rien, c'est une brigade de surveillance qui va... renforcer les brigades de contrôle qui contrôlent les titres de transport et les pauvres qui n'ont pas de quoi se les payer. Quand ça va être de faire circuler des bagnoles de flics dans les quartiers, et même si on n'a rien à se reprocher, on a le droit de pas aimer ça, quoi. Que la police tourne en permanence pour surveiller parce qu'on a l'impression d'être occupé, quoi. Enfin, quand ces réponses-là, ce sont celles, pour une part, qui accompagnent vos problématiques, comment on fait pour sortir de ce triangle-là? Tu dis, on est assez malin aussi pour en sortir. Moi, je ne suis pas sûr, quoi. Ce n'est pas si évident que ça. Après, parce qu'on est bien coincé dedans, quoi.
Mais on ne va pas mettre la cabane sur le chien, nous. On ne va pas mettre la cabane sur le chien. J'entends tout ce que tu dis. J'entends J'aime les utopies, en fait.
Mais ce n'est pas une utopie. Hein. Ah. C'est une dystopie. Hein. Enfin, je veux dire, c'est la dystopie sécuritaire. Là, hein.
Oui, mais... J'aime les utopies. Et donc, je pense que ça en reste une, mais c'est les utopies qui font avancer les choses. C'est les utopies, certaines utopies du 18e, du 19e, qui nous ont amenés là où on est maintenant, et tant mieux. Il y a des utopies qui font... voilà. Donc, j'aime les utopies. Tout ça pour dire qu'après, on ne va pas mettre la cabane sur le chien. C'est-à-dire que notre cœur de bataille, c'est les conditions de travail, les conditions salariales. D'accord ?
Mais on parlait de ça. Hein.
Oui.
Je veux dire, le fait que vous soyez victime d'agression, c'est les conditions de travail.
Après,
on est
un collectif avec autant de personnes qui pensent différemment les choses. Et donc, on s'arrête... Évidemment, à un moment donné, dans le cadre du fonctionnement syndical en entreprise, à un moment donné, on s'arrête. On s'arrête. Ce qui n'empêche pas d'avoir une réflexion politique et en dehors de ce cadre du travail, mais qui va potentiellement. Bon, pour répondre à ta question plus clairement, on ne va pas dire, nous, on veut qu'il n'y ait plus de policiers dans les rues et on veut qu'il y ait du lien social. Alors, et on veut qu'il y ait du lien social, une vie, globalement, ce que je disais tout à l'heure, de façon à ce que s'il y a du lien social, les gens peuvent aussi faire vivre leur quartier, prendre la vie de leur quartier en main et faire en sorte que tout se passe bien. Et globalement, ça s'autogère. À partir du moment donné où il y a un équilibre qui se fait, ça s'autogère. On pourrait partir là-dessus, mais on dépasse, je crois, le cadre du travail, des conditions de travail et au moins au niveau de l'entreprise.
Non, mais moi je ne suis pas utopique là-dedans. Enfin, ce que je voulais te poser, c'est que le message qui est passé par votre syndicat et par Bibus, en fait, le message qui est passé, c'est un message uniquement sécuritaire et punitif pour les gens du quartier. Il n'y a pas eu d'autres messages. Quoi.
Oui.
Et même si, encore une fois, hein, je veux dire...
C'est pour ça que j'ai voulu venir ici, et on va un petit peu plus loin, que ce qui est marqué dans la presse, t'auras remarqué quand même. Donc c'est pour ça que j'ai voulu venir ici. Parce que qu'est-ce qui intéresse la presse, en fait? C'est le sécuritaire. C'est le buzz. J'entendais tout à l'heure ce qu'il disait Mehdi. Jamais on trouvera un article dans les journaux pour dire, le centre social de Pontanezen est sorti, a fait une sortie au Capucin avec 20 gamins et puis ça s'est super bien passé. On ne le verra jamais. Par contre, s'il y a une poubelle qui brûle, on verra un petit encart en disant une poubelle brûlée à Pontanezen. Donc, c'est pour ça que je suis venu ici, parce qu'effectivement, l'interface de la presse, elle n'est pas suffisante dans le débat de fond.
Malheureusement pour vous, on n'est pas suffisant. Hein.
On aimerait bien, mais ça va venir. Ouais. Ça va venir.
Mais je veux dire, je suis allé voir sur votre site. Il y a peu d'autres messages, quoi. Et là, moi, enfin, je suis ravi que tu sois là. Hein. Enfin, c'est pas la question. Mais vous affichez rien d'autre.
Non, c'est vrai.
Et je pense que c'est vraiment problématique parce que le seul lien que vous véhiculez, la seule articulation, c'est simpliste, hein, peut-être. Et j'ai bien entendu, puisque je t'ai écouté, que ton discours, il est plus nuancé, quoi. Mais le message de fond, c'est l'articulation...
Ah, il n'est pas nuancé du tout, mon discours. Ah non, 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 il n'est pas nuancé du tout.
Plus nuancé que ce que je vais dire.
Ah. Bon, vas-y, alors.
C'est l'articulation Bibus-Police, quoi. C'est ça qui fonctionne, quoi.
Oui, oui, mais je sais que... Je vois bien le parti pris que vous avez et... Voilà, mais je vois bien. Parce que ça reste pas de notre prérogative, en fait. C'est le sujet, c'est quoi? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'ordre, la sécurité ou l'organisation sociale, pour ne pas dire sécurité, l'organisation sociale de l'environnement dans lequel on évolue, nous, ne dépend pas de nous.
Mais autorisez-vous de vous-même quoi, faire un communiqué aux gens de Pontanezen, même si c'est juste un papier?
Ah, mais on a fait. Alors, vous l'avez
pas
vu?
Non, j'ai pas vu. J'ai non, pas vu.
Alors, on a fait. On a remercié les habitants et on a remercié les dans le... Alors, il n'est pas paru dans le télégramme.
Ah, bah,
donc, je remercie une fois de plus Stéphane Jézéquel. Il va m'aimer. Je pense que s'il a une poupée vaudou à mon effigie, il y a les aiguilles qui vont appuyer dessus. Je remercie une fois de plus le Télégramme. Du coup, l'Ouest de France, par contre, a mais on a fait un communiqué de presse où on remercie les habitants, où on remercie les usagers pour le soutien qu'on a reçu par rapport à ça. Et pourquoi on l'a fait? On l'a fait parce qu'on avait reçu des soutiens. On a des collègues, nous, qui habitent ici sur Pontanezen. On a des collègues à nous qui habitent sur Pontanezen, qui nous disent, voilà, ça emmerde tout le monde, les gens comprennent. Les gens comprennent ce qu'on vit. Et donc, on a voulu le dire et on l'a dit.
Oui, mais le seul truc, vous n'avez pas fait l'inverse.
C'est-à-dire?
Vous n'avez pas remercié... vous n'avez pas apporté votre soutien aux gens de Pontanezen, quoi. Vous avez remercié les gens de Pontanezen pour leur soutien.
Alors, mais t'as raison, on n'a pas été complet, mais oui, t'as raison.
Non, c'est pas une question de complet, c'est aussi... Enfin bref, bon, pardon.
Non, mais t'as raison. Et après, alors, on peut dire des grossièretés dans le micro, là?
Oui, il y a droit.
Ouais.
Alors, si c'est sexiste,
mais évidemment, oui. c'est sexiste, mais à mon encontre, donc ça va. Tu as coupé. Il y a un collègue qui me dit souvent, tu sais, Luc, on n'a pas 15 couilles.
Ah, tu vois. C'était limite.
C'est limite.
Ouais.
Que vous n'avez pas de collègues.
Alors, c'est des collègues gueux. Et des collègues gueux et des collègues gueuses. qui m'a dit, Luc, on n'a pas 15 couilles. Et ils ont raison. Alors j'ai dit deux fois, bon, ça suffit.
Ouais.
Et parce que c'est vrai qu'on n'est pas partout. Mais ça n'empêche pas qu'on a une réflexion politique. Ça n'empêche pas qu'on a une éducation politique aussi. Qu'on est capable de penser des choses et qu'on est capable de venir ici, de discuter et d'aller au-delà. Et effectivement, on n'est pas sur tous les sujets. Mais parce qu'on est, on est au volant, hein. Moi, je suis au volant. Là, je ne suis pas au volant aujourd'hui, mais demain, je suis au volant. Après, je serai pour défendre les intérêts des collègues. On est plusieurs à le faire, à défendre l'intérêt du collectif, à défendre, à se positionner sur des choses et d'autres, et au volant du bus ou du tram en fin de semaine. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On a une vie de famille. On aime bien nos femmes et nos enfants et nos maris. Donc, on essaye de les garder aussi, quoi. Si ça répond à ta question. Mais on a quand même une conscience politique. Si c'est l'idée de penser qu'on n'a pas de conscience politique ou une petite conscience politique, on en a une. Peut-être qu'elle transparaît à travers ce que je dis d'ailleurs.
Merci beaucoup. Bon. En tout cas, merci d'avoir...
Je suis très bavard, excusez-moi.
Non, il n'y a pas de souci. Merci d'avoir pris le risque De te confronter à nous en sachant que, enfin, on t'avait prévenu d'avance qu'on serait sans doute pas d'accord. Et
j'adore ça.
Voilà. Et du coup, merci.
Merci à vous.
Et